VOA Afrique, les infos. À Washington.
Jean-Roger Billon, il est 10h en temps universel. Bonjour à tous. Hong Kong se prépare à davantage de manifestations cette semaine après un week-end de mobilisation où plusieurs centaines de milliers de manifestants ont défilé sous la pluie dans le calme, bien loin des scènes de violence qui ont souvent marqué les précédentes manifestations. Dimanche, 1,7 million de personnes étaient dans la rue de Hong Kong. Selon les organisateurs du rassemblement, la police en a, elle, dénombré 128 000 au parc Victoria, point de départ du défilé au plus fort de la mobilisation. Pékin a adopté un ton de plus en plus ferme à l'égard des manifestations, allant même jusqu'à accuser des pays étrangers, notamment les États-Unis, d'ingérence. Et le président Donald Trump a laissé entendre dimanche que la Maison-Blanche aimerait d'abord voir Pékin trouver une solution à cette crise avant que les deux pays ne parviennent à un accord commercial. Une dizaine d'explosions ont secoué depuis ce matin la ville de Jalalabad. C'est dans l'est de l'Afghanistan, selon les autorités qui déplorent au moins 19 blessés, alors que la population célèbre le centenaire de l'indépendance du pays. Les explosions ont été causées par des bombes artisanales dans différents quartiers de la ville et aux abords, alors que les gens fêtaient l'indépendance, a indiqué à l'AFP Atullah Kojani, le porte-parole du gouverneur de la province de Nangarhar. Ces attentats n'ont pas été revendiqués. Les talibans et la branche afghane du groupe djihadiste État islamique sont tous deux actifs dans les provinces frontalières du Pakistan et Jalalabad est souvent le théâtre d'attentats. Damas a dénoncé aujourd'hui l'envoi par la Turquie d'un convoi militaire chargé de munitions dans le sud de la province d'Idlib, cela au lendemain de l'entrée des troupes pro-régime dans la ville clé de Khan Cheikhoun. De son côté, l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH, a fait état de raids russes et syriens non loin du convoi pour l'empêcher de poursuivre son chemin.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Sur le continent, le président déchu Omar el-Béchir, qui a dirigé le Soudan durant 3 décennies, est arrivé aujourd'hui devant un tribunal de Khartoum où il doit être jugé pour corruption. L'ex-chef d'État déposé par l'armée le 11 avril en réponse à des manifestations massives est arrivé en matinée, escorté par un important convoi militaire selon l'AFP. Son procès devait s'ouvrir samedi, mais il avait été reporté sine die. Et Soudan toujours, le pays s'est engagé hier concrètement dans sa phase de transition vers un pouvoir civil qu'il espère apaiser avec la désignation attendue des membres du Conseil souverain. Cela au lendemain de l'accord historique signé par les dirigeants militaires et la contestation. Thomas Kamelindi.
Samedi, des foules en liesse ont rempli les rues de Khartoum après la signature de l'accord. Ce compromis entre les généraux au pouvoir et les meneurs de la contestation prévoit une transition de 39 mois qui doit être menée par un conseil souverain composé de 11 membres, dont 6 civils et 5 militaires. La cérémonie de signature a eu lieu à Khartoum en présence de nombreux dignitaires étrangers, le plus grand événement à être organisé depuis des années dans la capitale soudanaise. Plusieurs pays ont salué la signature de l'accord, considéré comme le point de départ d'un nouveau Soudan après les 30 ans de pouvoir d'Omar el-Béchir. Sur Twitter, le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a promis que Washington soutiendrait l'établissement d'un gouvernement qui protège les droits de tous les Soudanais et mène vers des élections libres et équitables. Pour l'analyste soudanais Abdelatif Al-Bouni, le plus grand risque dans l'immédiat pour la transition est la volonté de se venger de certains. Plusieurs étapes précéderont les élections prévues en 2022. Le gouvernement doit, lui, être formé le 28 août avec 20 membres au maximum pour permettre aux nouvelles institutions d'affronter les principaux défis du pays, en priorité la relance d'une économie en crise.
Et l'armée et la police ont été déployées en force aujourd'hui à Bulawayo, deuxième ville du Zimbabwe, quelques jours après la répression brutale d'une manifestation semblable à Harare. La police avait déjà interdit des protestations la semaine dernière, après que le MDC, le parti d'opposition, eut appelé à une série de manifestations dans la capitale contre la gestion de l'économie par le gouvernement du président Emmerson Mnangagwa. Jean-Roger Billon à ce micro. Je vous retrouve dans 55 minutes pour un nouveau journal. A tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.